L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raze automatique à partir de 3900 francs seulement.
Bonjour Jean-François Bodin.
Bonjour Nicolas.
Alors on vient. Hier et vous recevez ce matin Claire Durieux.
Claire Durieux qui est la directrice de la mission interministérielle sur la Nouvelle-Calédonie. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation effectivement au lendemain du lancement du pacte de refondation. Il était attendu depuis plusieurs mois, il était préparé par la mission interministérielle. Est-ce qu'on est toujours dans le tempo qui avait été ministériel pour ces travaux de reconstruction? Est-ce qu'on est dans le bon timing?
Alors, pour l'instant, oui, mais s'il n'y a pas une accélération très nette du déploiement des projets financés par l'État, par les collectivités territoriales, et puis également une accélération sur le sujet des réformes, on risque de prendre du retard dans les 2-3 mois qui viennent.
C'est-à-dire que vous dites que la mission, en identifiant ces projets, a fait son travail aujourd'hui et que le reste est dans la main des élus calédoniens ?
Alors, effectivement, il y a eu un gros travail fait, pas seulement par la mission, en partenariat, vous le savez, très étroit, avec le gouvernement, les groupes au Congrès, les provinces, les communes, mais également le monde économique et social, Sénat Coutumier, CESE. Donc tout ce travail a permis d'aboutir à une proposition, à un pacte de refondation validé par le Premier ministre, pour lequel les crédits ont été mis en loi de finances. Donc désormais, tout cela est sur la table. Et maintenant, il y a un enjeu d'accélération pour le déploiement des chantiers. C'est-à-dire que concrètement, on commence à avoir les premiers chantiers qui arrivent là dans les prochains mois, de manière à recréer de l'emploi, recréer de l'activité et améliorer la situation économique et sociale du territoire.
Alors, ce sont 64 projets qui ont été annoncés dans la première phase du déploiement de ce pacte de refondation. Comment ont-ils été choisis? Sur quoi portent-ils? Et selon quels critères ils ont été retenus?
Oui. Alors, ils ont fait l'objet d'échanges depuis plusieurs mois avec les collectivités. Globalement, il fallait que ça permette le développement économique à moyen long terme du territoire. Et donc ça, c'est le désenclavement, notamment donc tout ce qui est transport, les ponts, les routes, les radiers, le transport en commun, etc. Il fallait que ça prépare l'avenir. Donc ça, c'est protéger la population face aux conséquences du changement climatique, notamment la lutte contre l'érosion côtière, la sécheresse, etc. Il fallait que ça contribue à la diversification de l'économie. Pêche, agriculture, tourisme, et que ça développe les services publics essentiels, notamment l'eau, les déchets, l'électricité en territoire isolé. Donc voilà, il fallait que ça entre dans une de ces catégories, d'une part, et d'autre part, que ce soit des projets qui n'engendrent pas trop de frais de fonctionnement à l'usage, parce qu'on ne veut pas que ça pèse en fait sur les finances publiques des collectivités. Et enfin, on a fait un ratio coût-avantage pour que ce soit les projets les plus porteurs.
C'est pour ça que ces 64 premiers projets sont essentiellement des projets d'infrastructure, de construction de routes, de ponts, de barrages, d'éclairage public, de gestion des déchets. C'est justement pour éviter ces frais de fonctionnement qu'ils ont été choisis ?
Ça a fait partie des critères. Après, c'est aussi parce que c'est les besoins qui sont remontés des collectivités. Par exemple, vous avez 19 projets qui concernent tout ce qui est adduction en eau potable, amélioration, etc., de l'accès à l'eau, notamment en tribu. On sait que c'est un sujet qui revient souvent. Les routes également, pour désenclaver. Donc c'est vrai que ça correspondait à la fois aux critères du pacte pour une relance rapide et puis à des besoins concrets pour la population.
Alors très concrètement, une fois qu'un projet a été validé, qu'est-ce qui se passe? C'est à la collectivité concernée de le mettre en œuvre? Est-ce que l'État verse l'argent tout de suite? Comment vont s'organiser les choses très concrètement?
Alors, très concrètement, donc, le pacte, juste pour rappeler, donc, c'est 240 milliards de francs CFP.
Sur 5 ans.
Sur 5 ans. Là-dedans, vous avez une enveloppe qui est dédiée aux investissements publics. Donc, c'est les 200 millions d'euros. Désolée, je parle en euros. Et donc, sur cette enveloppe-là, il y a d'ores et déjà 64 projets présélectionnés par le Haut-Commissariat qui représentent 9 milliards de francs CFP. C'est des projets qui seront financés à 100% par l'État. Et maintenant, charge aux collectivités de transmettre toutes les pièces pour que le dossier soit complet et qu'on puisse mettre en paiement, et surtout de lancer les appels d'offres, de lancer les travaux, de concrètement lancer le dispositif le plus vite possible.
Le Haut-Commissaire a beaucoup insisté en lançant et en présentant la nécessité d'aller vite, que les projets soient visibles aussi pour les Calédoniens. C'est une vraie volonté de l'État de voir les choses émerger rapidement. Et il y a certains projets qui pourraient déjà être bouclés à la fin de l'année 2026.
Ils doivent tous commencer.
Au moins commencer, oui. Le premier coup de pioche,
au moins avant la fin 26. Certains pourront être bouclés fin 26, s'il y a un bon rythme d'exécution. Pour d'autres, ce sera en 27. Mais effectivement, L'État insiste beaucoup sur la rapidité. C'est une volonté du Premier ministre. C'est une volonté de la ministre des Outre-mer, principalement parce que le territoire ne peut plus attendre. En fait, la situation économique, elle ne s'est pas encore vraiment améliorée. Et donc, il y a vraiment un enjeu que, là, dans les prochains mois, il y ait de l'activité, de l'emploi qui redémarre. Et pour ça, il faut que ces chantiers se lancent. Et donc, c'est pour ça que les collectivités, je pense, auront tout à cœur d'aller le plus vite possible. Et on fera un suivi trimestriel. C'était la volonté de la ministre des Outre-mer. Donc, tous les trois mois, la ministre demandera à voir le tableau de bord de suivi des projets, d'avancement des projets. On le rendra public. Ça permettra à chacun de voir collectivité par collectivité où on en est, qui va vite, qui va moins vite, etc. Ça permettra qu'on aide à débloquer s'il y a des blocages. Voilà, mais j'ai une petite expérience administrative et je sais que dans l'administration, on a toujours le choix entre aller plus ou moins vite. Voilà, donc on peut aller très vite quand il y a la volonté et l'intensité qui est mise dans le projet.
Alors 64 projets, on l'a dit, beaucoup sont des infrastructures. On imagine qu'il y aura un effet bénéfique sur l'emploi, notamment dans le BTP, où il y a des grosses attentes. Est-ce qu'il existe encore sur le territoire la capacité de répondre techniquement à la mise en œuvre de ces chantiers? Et quels sont les autres effets bénéfiques induits, attendus du lancement de ces projets?
Oui, tout à fait. Pour la quasi-totalité, je pense qu'il n'y a aucune difficulté avec le BTP qui existe aujourd'hui sur le territoire. En revanche, on sait qu'il y a eu beaucoup de licenciements dans le secteur du BTP. Il y a même certaines boîtes qui ont fait faillite. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il ne faut plus attendre. Parce que si on attend trop pour lancer, il va y avoir encore plus de faillites d'entreprises du BTP. Des gens vont partir, des compétences vont se perdre. Donc, aussi
donc
pour
moment,
maintenir
quoi.
Ce tissu, voilà, c'est vraiment le moment.
Alors Claire Durieux, pour l'instant, ce pacte reste assez discret sur son troisième pilier, hein, qui est le nickel. On sait l'importance que représente le nickel en Nouvelle-Calédonie. Pour l'instant, l'idée, c'est d'élaborer un plan de transformation de la filière sous réserve qu'elle soit évidemment rentable et qu'il y ait des engagements nécessaires au succès de cette transformation. Où est-ce qu'on en est très concrètement? Est-ce que vous discutez avec les différents acteurs de la filière nickel? Est-ce que ce plan de transformation avance concrètement et quand est-ce qu'il pourrait être bouclé?
Alors, effectivement, le travail est plus discret, mais il est tout aussi intense. Ça, je peux vous l'assurer. Concrètement, ce qu'on a fait ces derniers mois, c'est qu'on a beaucoup travaillé avec le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, les différentes provinces concernées, et puis bien sûr les métallurgistes et les potentiels repreneurs. Donc, on a beaucoup travaillé avec l'équipe sur tous ces sujets. Et l'objectif, ce qu'on s'est fixé, c'est d'identifier quelles étaient les conditions qui permettraient le retour à l'équilibre, le retour à la rentabilité au mieux, enfin au plus tard, sous 5 ans des usines. Donc on a identifié les leviers, maintenant on les connaît. On va les partager prochainement avec le monde économique et social. Le gouvernement souhaite organiser des groupes de travail élargis. Mais globalement, ce que je note, c'est qu'il y a eu une prise de conscience des élus sur le fait que pour préserver les usines et donc la transformation, il y avait des évolutions du modèle qui étaient indispensables. Et ce n'est pas l'État qui le demande. L'État ne demande rien, quelque part. Il fait constater s'il y a ou non rentabilité. En revanche, les potentiels repreneurs demandent des choses. Ils ont fait eux aussi leur analyse de rentabilité. Et clairement, ils disent pour venir, pour reprendre, ils veulent de manière cumulative un fort soutien de l'État et pouvoir exporter de manière encadrée, en parallèle de la transformation, le minerai non valorisable sur le territoire. Donc ils avaient posé clairement ça sur la table. Les élus ont vu la situation, et pour préserver les emplois et les usines, ont souhaité, en responsabilité, voter un texte sur les exports. Donc oui, le travail est plus discret, mais il est très réel et il est absolument fondamental pour l'économie du territoire.
Est-ce que cet exemple illustre la manière de travailler? C'est-à-dire que l'État, évidemment, vient au soutien de l'économie, mais il y a aussi une partie qui appartient aux élus calédoniens. On le sait, on a parlé parfois de contrepartie, ce dont l'État s'est toujours défendu. Mais il y a toujours ces deux piliers pour que ce pacte de refondation soit vraiment effectif?
Complètement, parce que tout simplement, tous les sujets dont on parle sont de la compétence du territoire. Il n'y a pas de volonté de l'État de les reprendre, mais d'accompagner pour qu'elles soient pleinement déployées et permettre le redressement économique du territoire. Donc vraiment, la méthode, c'est effectivement, on accompagne, mais par contre, on ne met pas d'argent à fond perdu. Donc c'est pour ça que sur le nickel, le Premier ministre a été très clair. On pourra mettre de l'argent, jusqu'à 500 millions d'euros en 2026, c'est beaucoup d'argent, qui est intégré en loi de finances. Mais la condition sine qua non, c'est qu'on soit certain qu'il y a une perspective de retour à la rentabilité.
Et aujourd'hui, on est plutôt sur cette trajectoire-là, dans les travaux que vous menez ?
Il y a des leviers qui ont été activés. Dans les conditions qui ont été identifiées pour permettre le retour à la rentabilité, les élus ont clairement fait le chemin en ce sens.
Alors ce pacte de refondation, on l'a dit, c'est 240 milliards de francs sur les 5 ans à venir. Alors est-ce que cet argent est sanctuarisé ? On sait que la France rencontre des difficultés budgétaires. La guerre aujourd'hui au Moyen-Orient et celle en Ukraine pèsent aussi sur les finances publiques. Est-ce que ces 240 milliards de francs sur 5 ans, ils sont sanctuarisés ? Et quelle que soit la situation économique de la France, ils seront versés à la Calédonie ?
Alors, là-dessus, je pense que le mieux, c'est de se référer aux paroles du Premier ministre lorsqu'il a présenté le pacte devant le Sénat. C'était il y a quelques semaines de ça. Il a bien rappelé la priorité qu'il attachait à ce pacte et à son déploiement parce que c'était un enjeu de solidarité nationale et que c'était un engagement que la République devait à ses concitoyens en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, je pense que ce portage politique au plus haut niveau du Premier ministre permet aux Calédoniens d'avoir de la visibilité.
Alors ce pacte de refondation est une nouvelle étape dans le travail de la mission interministérielle. Elle suit son calendrier. On a vu que le pacte est arrivé au bon moment. Mais est-ce que vous êtes à jour finalement dans les travaux et le timing que vous vous étiez fixé depuis le début ?
À ce stade, oui. Mais comme je le disais...
Ça va dépendre de la rapidité de la mise en œuvre des projets.
Voilà, d'une part, et d'autre part, de la rapidité de mise en œuvre des réformes également. Parce qu'il y a un pilier dont on n'a pas parlé, mais c'est tout le pilier finances publiques, où il y a un enjeu d'accompagner là aussi les élus, le territoire, à identifier les bons leviers pour retrouver l'équilibre des finances publiques au plus tard à horizon 2030. Donc ça, on y travaille, c'est le contrat financier pluriannuel. Mais là-dessus, il y a des choses qui sont sans regret. Il y a des réformes, tout le monde sait qu'il faut les faire. Retraite, RUAM, il y a des textes qui ont été déposés, parfois depuis de longues années. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à.
Il faut passer à l'action.
Voilà.
Claire Durieux, on a appris, ce sera ma dernière question, notamment par des indiscrétions de la presse nationale, que vous alliez quitter la direction de la mission interministérielle. Est-ce que vous confirmez ? Et puis, est-ce qu'on peut vous demander vers quelle nouvelle fonction vous allez évoluer ?
Alors, tout d'abord, je regrette qu'il y ait eu ces indiscrétions de la presse nationale parce que je souhaitais l'annoncer de vive voix aux partenaires avec qui on travaille de manière franche et constructive depuis plusieurs mois. Et je suis notamment venue là ces prochains jours pour cela. Mais donc, effectivement, je suis amenée à prendre d'autres fonctions. Comme ça n'est pas encore officialisé, même si la presse le sait, je ne vais pas dire lesquelles, mais c'est à Bercy. Je tiens à dire deux choses. La première, c'est que ça ne change absolument rien sur le déploiement du pacte. L'équipe de la mission interministérielle, elle reste en place. Les services de l'État, locaux et centraux, ils restent en place. Le haut commissaire est aussi aux manettes. J'aurai un successeur de très grande qualité qui sera opérationnel le jour même de mon départ. Donc tout ça est complètement balisé.
Il y aura une continuité assurée.
Continuité totale, ça c'est la première chose. Portage politique au niveau du Premier ministre, c'est le plus important. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est que ça a été une grande fierté pour moi de travailler pour la Nouvelle-Calédonie et les Calédoniens ces derniers mois. Et voilà. Et on dit parfois jamais 203. J'étais déjà venue en Nouvelle-Calédonie.
Dans d'autres fonctions.
En août 24, effectivement, dans d'autres fonctions. Je suis venue beaucoup dans mes fonctions actuelles. Voilà. On verra ce que nous réserve la suite.
Mais la Calédonie vous restera forcément un moment important de votre carrière dans ce qui s'est passé, dans ce que vous avez vécu et traversé ici.
Oui, tout à fait. De ma carrière et de ma vie aussi, je pense. C'est un territoire qui gagne à être connu. Les Calédoniens gagnent à être connus. Et voilà. Et je pense que je resterai très attachée au territoire.
Claire Durieux, qui est toujours la directrice de la mission interministérielle pour la Nouvelle-Calédonie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin.
Merci à vous.